Chapitre 74. Tout en bas, sous leurs pieds, coule la Seine, longue veine bleu marine aux reflets argentés. Alice Kammerer, portée par son amie Solange, franchit la frontière entre le territoire des Diggers et celui des Nautiques. Depuis les hauteurs, la scientifique de 80 ans distingue des villages où l'on peut observer des cheminées qui fument, signe que les Nautiques ont créé d'autres colonies en utilisant les maisons abandonnées après la guerre. Les zones couvertes par des champs de céréales et des panneaux solaires se sont beaucoup étendues. Pas de doute, ils ne meurent pas de faim et contrôlent leur approvisionnement en énergie. Enfin, Alice repère au loin Deauville, la capitale des Nautiques. Là encore, le paysage a bien changé depuis sa dernière visite. La ville est beaucoup plus vaste, sur terre comme sur mer. Il y a 10 fois plus de jetées. Les navires de toute taille s'alignent comme des fruits sur des branches. Sur le bord de mer ont été construites des centaines de grosses maisons cubiques sur pilotis qui ne semblent pas craindre la hauteur des vagues.
« Où veux-tu que nous atterrissions ?»
demande Solange.
Il y a 20 ans, le palais de Poséidon se trouvait dans l'ancien casino de Deauville. Allons voir s'il y est toujours.
L'aérial atterrit sur la grande esplanade devant l'entrée du prestigieux bâtiment. À peine les deux femmes se sont-elles posées qu'un groupe d'hommes dauphins lance sur elles des filets. On les entrave, puis on les sépare.
« Lâchez-moi !»
crie Alice. On l'emmène sans ménagement, sans considération pour son âge avancé.
« Je suis la mère! J'exige de parler à mon fils Poséidon !»
Mais aucun des Nautiques qui l'ont capturé ne prête attention à ses cris. Ils la font monter dans une camionnette grillagée et démarrent. Ils roulent pendant une demi-heure, puis se garent non loin d'un bâtiment ultra-moderne, en forme de parallélépipède, qu'elle reconnaît. Le Paléospace, fameux musée de paléontologie de Villers-sur-Mer, une ville voisine de Deauville.
« Je veux parler à votre roi. Je suis sa mère !»
répète-t-elle aux Nautiques qui ne semblent même pas l'entendre. Ils la forcent à entrer dans le musée. Alors qu'elle marche maintenue au niveau des bras par 2 Nautiques, elle découvre le décor de l'intérieur du Paléospace. Des projecteurs éclairent les murs où sont accrochés de grands panneaux. Le premier est une photo qui représente la Terre, un rond complètement bleu sur le fond noir de l'espace. Une pancarte indique « Premier épisode, l'eau. Apparition du premier élément, l'eau, il y a 4,3 milliards d'années. La surface du globe se couvre d'un océan infini. » Sur la 2e photo, une tache beige se trouve au centre du rond bleu. 2e épisode, la Terre, il y a 4 milliards d'années. Formation des continents. Et apparition du 2e élément, la Terre. Alice et les 2 gardes qui l'entourent avancent encore. 3e épisode, la vie. Il y a 3,8 milliards d'années, naissance dans l'eau d'organismes unicellulaires, les algues bleues. Cette fois, sous la photo est posé un aquarium éclairé où l'on distingue comme une poudre qui se maintient en suspension. 4e épisode, l'air. Il y a 3,5 milliards d'années. Les algues produisent de l'oxygène qui permet à l'atmosphère de se constituer. Apparition du 3e élément, l'air. La photo associée à cet épisode est encore celle d'un rond bleu sur lequel sont éparpillées des traînées blanches représentant les nuages. 5e épisode, les poissons. Il y a 530 millions d'années. Période cambrienne. Animaux au corps mou, mais équipés d'une colonne vertébrale, ils se déplacent dans l'eau et se nourrissent d'algues, d'êtres unicellulaires ou pluricellulaires. Ils n'ont au début ni mâchoire ni dents. Les plus évolués parmi les poissons ont des nageoires pour se déplacer et des branchies pour respirer dans l'eau. Plus loin, une carte représente les terres émergées dont les formes sont différentes des continents actuels. Sous la carte est placé un aquarium avec à l'intérieur un poisson pourvu d'une 10aine de nageoires épaisses, d'une queue large et de grosses écailles. L'animal est surmonté de sa dénomination scientifique, Coelacanthe, Latimeria calumnae. Et l'on peut lire « Rare spécimen d'une espèce apparue il y a 400 millions d'années et encore vivante de nos jours sans avoir changé de forme. » Sixième épisode, les mammifères, il y a 200 millions d'années. Les premiers poissons sortis de l'eau ont donné naissance aux amphibiens, aux reptiles, puis aux premiers mammifères terrestres. Parmi ces derniers sont apparus les primates, et parmi les primates, une espèce au développement fulgurant, les sapiens. À côté est affichée une représentation de la Terre avec ses 5 continents. Une flèche au sol indique qu'il faut franchir une porte. Passé le seuil, Alice découvre un couloir dont le mur côté droit a été remplacé par une grande vitre derrière laquelle se trouve une pièce éclairée. Une première pancarte indique « Homo sapiens » et une seconde précise « Apparu il y a 300 000 ans, cette espèce est en voie de disparition depuis 50 ans ». On peut aussi lire en dessous « Couple de spécimens survivants, mâles et femelles, dans un décor correspondant à leur milieu naturel à l'époque de leur apogée ». Encore plus loin se trouve une trappe transparente de taille réduite sur laquelle il est simplement écrit « Ne pas tenter de les nourrir ». Alice ne peut quitter la vitre du regard. De l'autre côté, un couple d'humains semble vivre dans un appartement témoin. Un vieil homme, qui porte un béret, une moustache et une perruque, vêtu d'un jogging rose et avec des charentaises de la même couleur aux pieds, fume une pipe en lisant le journal assis sur une chaise. Une vieille femme est assise à ses côtés. Elle est vêtue d'un peignoir rose aussi. Elle porte des bigoudis, est très maquillée et se trouve devant une table recouverte d'une nappe à carreaux rouges et blancs où sont posées une bouteille de vin, une baguette de pain et une assiette contenant un steak frites. Au fond, un poste de télévision éteint. Sur le mur de droite, une fausse fenêtre avec un rideau rouge et, derrière la vitre, une photo couleur sépia de Paris montrant la Tour Eiffel, le Sacré-Cœur et Notre-Dame collés les uns aux autres au milieu d'immeubles haussmanniens. Sur le mur du fond, d'autres photos probablement découpées dans les journaux représentant des matchs de football, des scènes de guerre, des mariages princiers. Sur le côté gauche, un lavabo, des toilettes et un miroir. Alice, choquée, regarde la scène sans pouvoir prononcer un mot. Les deux nautiques qui lui tiennent les bras la placent devant la porte de verre et alors que le premier la déverrouille, le second empoigne Alice et la force à pénétrer dans la cellule. La porte de verre se referme. Alice reste un instant hébétée, essayant de comprendre la situation. C'est la femme à bigoudi qui parle en premier.
« Bienvenue en enfer »,
dit-elle d'un ton ironique. Alice s'aperçoit que la bouteille de vin, le pain et le steak frites sont factices.
« Moi, c'est Francine »,
dit la vieille femme avec dans la voix quelque chose de triste et de désabusé. Avant qu'Alice ait pu ouvrir la bouche, retentit une sonnerie. De l'autre côté de la vitre, la porte au fond du couloir s'ouvre. Arrive un adulte nautique entouré d'une vingtaine d'enfants de son espèce. Par réflexe, Alice se cache derrière le rideau rouge placé sur le bord de la fausse fenêtre. L'adulte et les enfants nautiques se placent devant la vitre de séparation. Certains écrasent même leur visage contre la paroi transparente.
Et voilà maintenant le clou de la visite, annonce le nautique d'une voix solennelle. Les enfants, voici l'ancienne humanité, ceux que vous nommez parfois du sobriquet affectueux et pourtant si évocateur de dinosaures. Et vous avez raison, car cette ancienne humanité a connu la même destinée que les dinosaures. Après une période de domination des autres espèces, les sapiens ont rapidement décliné parce qu'ils n'étaient plus adaptés. Ils sont désormais condamnés à tous disparaître à plus ou moins long terme. Mais nous en avons conservé par miracle quelques spécimens pour vous les faire découvrir vivants, à vous, les nouvelles générations, comme le sélacanthe que l'on vient de voir. Ils désignent fièrement la cage et ses occupants dans leur décor factice. Pour rendre leur mode de vie plus réaliste, comme vous le voyez, nos paléontologues ont recréé, d'après des photos d'époque, leur milieu naturel d'avant la Troisième Guerre mondiale.
Les enfants d'Iggers scrutent l'intérieur de la cage vitrée, admiratifs.
Y a-t-il des questions ?
Demande le nautique adulte.
Il mangeait vraiment du plastique ?
Demande un élève.
Non, c'est juste pour montrer l'apparence de ce qu'il consommait au dîner.
Un enfant sort une sardine et profite de la trappe pour la jeter dans la pièce.
Pierrot, non, tu n'as pas lu la pancarte. En quelle langue faut-il te le dire ?
De toute façon, les sapiens n'aiment pas les sardines crues. Tiens, regarde, ils n'essaient même pas de la ramasser.
Comment on les nourrit alors, puisque le pain et le steak frites sont en plastique ?
Interroge l'élève. Le matin et le soir, un vétérinaire vient les ausculter et un nutritionniste leur donne des aliments enrichis en protéines, en vitamines et en charbon spécialement conçu pour eux. C'est bon pour le brillant de leur poil et le charbon leur permet d'éviter d'avoir des émissions de gaz. Car le sapiens est très péteur et dans ce milieu clos, il pourrait s'asphyxier.
Quel genre de protéines ?
Demande l'élève qui semble le plus ailé.
Essentiellement des déchets de poissons. Arêtes, têtes, viscères, pulvérisés, transformés en bâtonnets, puis colorés en orange et blanc.
Une rumeur de dégoût parcourt le groupe d'enfants.
Ce sont des friandises pour eux, vous savez. D'ailleurs, ce sont les sapiens qui ont inventé le concept. Ils l'ont appelé surimi. Ils adorent ça.
Les enfants nautiques se semblent très impressionnés par ce que leur professeur vient de leur expliquer.
Ils ont quand même l'air complètement déprimés,
remarque une fille nautique.
Ils supportent mal d'être enfermés.
Ils arrivent difficilement à renoncer à leurs besoins de promenade. Nous sommes obligés de leur donner, comment dire, des petites pilules pour les calmer.
L'adulte est de plus en plus gêné par les questions des enfants. Il est sauvé par l'arrivée d'un nautique en blouse blanche.
Les enfants, voici le vétérinaire. Il va vous expliquer le grand projet auquel vont participer les deux spécimens que vous avez devant vous.
Le nautique en blouse blanche prend la parole.
Oui, vous voyez là de purs spécimens de sapiens de type français. Le modèle français est reconnaissable à ses moustaches, à son béret, à sa baguette de pain, à sa nappe à carreaux et à sa femelle, qui porte dans les cheveux ce qu'on appelle des bigoudis. Le mâle est à gauche et la femelle est à droite. Comme vous le voyez, ce sont de très beaux spécimens. Et nous espérons une saillie sous peu.
Quand ?
Demandent en chœur les enfants.
Pour l'instant, nos tentatives n'ont malheureusement donné aucun résultat. Mais nous continuons nos efforts d'encouragement et nous comptons bien réussir rapidement.
Les élèves sont de plus en plus intéressés. Soudain, l'un d'entre eux s'exclame.
Mais si, ça a marché. Regardez, ils ont eu un enfant. Il est là, caché derrière le rideau.
Chut, un gamin m'a vu.
Alice sort de sa cachette et effectue un petit salut amical de la main. Le professeur a l'air très surpris.
Non, les enfants, il ne s'agit pas d'un enfant, mais d'un nouveau spécimen femelle adulte, plutôt âgé, d'après ce que je vois. Regardez, le sapiens âgé a les cheveux blancs, des rides et des veines apparentes sur la peau.
Alice se dirige vers la trappe qui sert à déposer de la nourriture et hurle.
Faites-moi sortir tout de suite! Je suis votre créatrice et j'exige de voir mon fils!
D'abord interloqué, le professeur éclate de rire, suivi par les enfants.
Allez, venez les enfants, dirigeons-nous maintenant vers une autre attraction du musée, les chiens. Eux aussi sont des animaux dégénérés qui vivaient en parasites des sapiens. Ils ne ressemblent en rien aux spécimens sauvages que vous connaissez.
Ce que je vais vous montrer sont des animaux domestiques qui étaient nourris, logés et même lavés par les sapiens. Et ils ne savaient rien faire sans leur maître. C'est un miracle que nous ayons pu trouver des exemplaires de chiens qui aient survécu aussi longtemps. Il y en a même des tout petits qu'on nomme chihuahua. Vous verrez, c'est très surprenant.
Le groupe d'élèves et leurs professeurs disparaissent dans un couloir. Par la porte ouverte, on entend des aboiements graves et aigus. Alice place de nouveau sa bouche contre la trappe.
Sortez-moi d'ici! Je veux parler à Poséidon!
La femme avec les bigoudis se tourne vers elle.
Inutile de vous égosiller, ils nous prennent vraiment pour des animaux de zoo.
L'homme à la grosse moustache la regarde en fronçant le sourcil. Il se lève et l'examine en plaçant son visage tout près du sien. Il lui touche les joues.
Je vous reconnais. Vous êtes le professeur Alice Kammerer, n'est-ce pas?
Il a dû me voir en photo dans les journaux. Je ne le sens pas du tout, ce type.
Et moi, vous me reconnaissez?
Dit-il d'un ton où Alice perçoit une menace. Alice recule imperceptiblement.
Pardonnez-moi, mais non, désolé, je ne vous reconnais pas.
Pourtant, nos destins sont liés,
dit-il d'une voix soudain dramatique. Alice l'examine plus attentivement. Il ôte son béret, sa perruque, ses fausses moustaches, prend un torchon et enlève le maquillage sur ses joues. Une grande cicatrice en Y apparaît sur le visage du vieillard.
Diego Martinez.
Il s'approche encore plus près et lui postillonne au visage.
C'est vous, hein? C'est bien vous? Tout ça, c'est votre faute, hein?
Écoutez,
murmure Alice en reculant. Il plisse les yeux et brandit son poing serré, agressif.
Quel dommage que l'homme qui ait tiré sur vous au ministère il y a 50 ans ait échoué. Si j'avais su ce qui allait advenir par votre faute, j'aurais moi-même essayé de vous éliminer, comme je regrette de ne pas l'avoir fait.
Il s'approche d'Alice. Il a l'air très en colère.
D'ailleurs, il est peut-être pas trop tard. Il est temps de payer pour tout le mal que vous avez causé.
Alice, effrayée, recule et se plaque contre la fausse fenêtre.
« Je ne suis pas responsable de la Troisième Guerre mondiale »
proteste-t-elle d'une voix qu'elle aimerait ferme.
« Peut-être, mais vous avez créé ces monstres qui nous chassent comme si nous étions des animaux et qui nous enferment dans leurs zoos.